Allô?
Est-ce que ça marche, mon bon Marc?
Oui, ça marche, je t'entends.
Coucou. Génial.
Coucou. Super.
Est-ce que le
Parfait.
son, ça te va? Du coup, on est sur un seul ordi. Je n'ai pas mis de casque. On est sur les haut-parleurs. Donc, moi, en fait, j'avais peur que le son des haut-parleurs, tu repiques ça avec notre micro et que ça te fasse chier.
Bah, j'ai pas l'impression de vous entendre en double, donc c'est que je pense que ça va.
Et
Donc à
toi,
mon
quand
avis,
tu
c'est
parles, tu
bon.
t'entends ou pas?
Ouais, non, je m'entends pas justement. C'est ce que j'ai pas de j'ai pas d'écho, donc si j'ai pas d'écho, normalement c'est que c'est bon.
Ah, parfait.
Normalement ça devrait le faire. Yes.
Ouvert.
Bon bah écoutez, super. Vous êtes tous les deux là
Finalement.
pour cet enregistrement finalement, c'est chouette. merci à vous et bienvenue du coup dans cette émission de rien et de tout si je puis dire. Alors pour j'ai déjà commencé à lancer la bande passante, hein, donc du coup ça enregistre tout ce que vous dites. Je vous le dis au cas où
Oh là là,
voilà.
mince alors, qu'est-ce qu'on a dit?
Pour le moment rien, c'est pour ça justement. Je préfère prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir hein, en l'occurrence. Bon du coup comment vous allez tous les deux?
Eh ben, bien, je crois.
Ouais.
Ouais, ça va bien. On commence à se servir. Bon, moi, c'est une petite cidre.
Ouais.
Et Julien est plutôt sur de la bonne bière.
Ah, petit
On
apéro,
s'est
quoi,
dit
du
que
coup.
le format prêtait à ce qu'on fasse ça tous les deux au même endroit et qu'on boive un coup en même temps.
Ben, vous avez tout à fait raison, parce que c'est vrai que le présentiel, c'est quand même toujours mieux que le distanciel. Alors, moi, j'ai un thermos de tisane. Vous voyez, donc, on n'est pas sur la même langue, c'est plaid et tisane. Voilà.
Écoute, je lui ai posé la question parce que quand même je me disais bon, alcool ou pas, ça dépendait de lui. Si lui est oui alcool, donc moi je disais bon d'accord. S'il disait bah je sais pas, je pense qu'on serait plutôt parti sur C'est fou, on commence toujours ces trucs. La dernière fois qu'on avait fait ça avec Yoann, je crois que
Ouais.
j'avais dit que j'avais fait la fiesta juste avant
Il
ou
me
quoi.
semble, oui, que tu avais
Ah
précisé
ouais.
ça, ouais,
En
exactement.
réécoutant ça, je me suis dit, mais quelle honte. Mais La bonne là, connexion.
Ça
Tenace.
fait quelques jours que j'ai pas bu d'alcool, du coup, j'ai pas trop hésité quand ça. Je peux comprendre, je peux comprendre. Bon bah
Heureusement.
du coup c'est chouette si vous allez bien, c'est cool. Et ce qui est en plus dingue, c'est que c'est vrai que bon, j'ai pressé quand même pour les éditeurs qu'en fait on s'est jamais vus tous les trois. Enfin vous êtes vus puisque vous êtes côte à côte, c'est logique. Mais moi je vous ai jamais rencontré en fait pour le moment. C'est
Ah,
une.
carrément, et c'est bien dommage parce que on est bien copains avec Jules, nous deux, et
Bah ouais.
on sait que t'es bien copain aussi avec lui. Et là, apparemment, il est venu il y a pas longtemps te voir,
Ouais,
si je
tout à
dis pas.
fait.
Bah,
C'était il y a 2 semaines à peu près.
faudra qu'on
Je
arrive à se
partais.
voir en vrai, quoi. Je
Ouais,
suis bien
on y
d'accord avec
arrivera, je
toi.
pense. De toute façon, je pense que je vais essayer de lui rendre visite dans les mois qui viennent, parce que c'est toujours lui qui vient et moi je viens jamais. Donc du coup, il
Bah,
faudrait
carrément.
inverser la tendance et que je vienne visiter votre beau pays qui est la
La
Savoie.
part, moi. Bah, carrément, carrément.
Ouais.
Mais c'est vrai que, genre, une discussion comme ça autour d'une table, je pense que quand tu vois les gens et tu vois la façon dont ils ont de s'exprimer, de parler et tout, c'est tellement beaucoup plus vivant que, enfin,
Ah bah
vraiment, des
c'est
fois.
clair, c'est
Tu vois
clair.
pas mal de podcasts maintenant qui sont même filmés, retranscrits sur YouTube, Ouais, machin, et
carrément.
tu sens que
Ouais.
les gens, ils ont. Bah, je sais pas s'il y en a une méthode qui est mieux, comme tu le fais toi ou l'autre en machin. Mais ça apporte, je pense, d'autres choses. Parce que tu vois vraiment, comme dit Ariane, tu vois
Bah tu vois
les expressions
ça les
faciales,
expressions des gens, ouais,
etc.
exactement.
Ça dépend aussi de la personne qui écoute. Moi, je sais que des fois, quand je suis dans la voiture, eh bien, du coup, j'entends. Donc, je peux pas voir. Mais c'est vrai que si je suis chez moi et je peux avoir un écran à côté pendant que je fais des choses, J'avoue.
je mets du coup plutôt la vidéo du podcast. Ouais.
Celles qui sont vraiment filmées, qui sont sur YouTube, par exemple. Du coup, j'aime bien voir la vidéo si je peux la voir, mais quand je peux pas, mais du coup, je peux pas. Je pense que ça dépend aussi
C'est logique. Pourquoi
de
tu
comment tu fais.
choisirais alors?
Et ça dépend de ce que je fais. Si je conduis, je peux pas regarder une
Oui, en fait,
vidéo.
c'est ça dépend de si on conduit, si on fait la vaisselle, si on fait le
Ça.
ménage. C'est plus sympa d'avoir. C'est comme écoute. Pour moi, je vois ça comme écouter la radio. En fait, la radio, t'as pas forcément besoin d'image. Et encore, comme vous le disiez, même la radio maintenant se met à se filmer dans ses émissions et tu peux les voir en direct sur YouTube. C'est
De ouf.
presque de la télé
Tu
aussi,
sais,
hein.
moi j'avais des souvenirs, ma mère qui écoute France Inter à midi, le mercredi quand on rentrait de l'école. Moi c'était vraiment les émissions, genre le fou du roi avec ce
Ah
putain
oui,
de
le fou du roi,
jingle à
ouais.
la. Ah ouais, le jingle à la guitare électrique au début, mais c'était génial. Et en fait, maintenant que je suis plus vieux et que j'ai accès aux internets et à tout ce monde incroyable, et ben je vois que toutes les émissions se podcastaient avec de la vidéo.
Oui.
Je sais pas, ça m'a toujours perturbé de... Bon, du coup, les gens qui écoutaient ma mère à l'époque, ils sont plus franchement là, mais il y en a encore deux, trois. Et donc, du coup, tu découvres la tête des gens aujourd'hui, alors qu'avant, tu
savais pas, quoi.
Tu t'écoutais des saisons et des saisons entières sans jamais avoir la tête des gens. Et je pense que là, il y a un vrai truc qui se passe, quoi. Mais j'écoute pas assez de podcasts et de trucs pour savoir qu'est-ce que je préférerais ou pas, quoi.
Ça fait un peu livre et série.
Ouais.
Oui.
Tu sais, quand tu lis et du coup, tu t'imagines tout.
Ouais.
Ou quand tu vois une série et du coup, tu vois tout. Et ou par exemple, les séries ou les films qui sont faits basés sur des livres, par exemple. Du coup, après, c'est pas pareil parce que la personne qui a la radio, c'est la même personne qui parle et qui... Et du coup, après, tu vois en vidéo.
Oui, mais c'est dans le sens où, autant que t'as pas vu un chroniqueur ou un animateur radio, tu l'imagines physiquement en fonction de sa voix, souvent.
Exactement.
Bah, et on est choqué de découvrir qu'en fait, bah, il était petit ou grand ou... ou laid, voilà, c'est ça, exactement. On l'imaginait beau parce qu'il avait une belle voix, mais en fait,
complètement beau gosse.
Ouais, je me suis toujours... Enfin, du coup, j'ai envie de me faire l'avocat de... est-ce que c'est pas mieux de laisser notre cerveau imaginer tout ça, quoi?
Oh non.
Ben...
Ok.
Ah, t'as été vite convaincu, là, disons.
Ok. Ben, moi, j'ai envie de me dire, tu vois, que ça laisse vraiment une part d'imagination à ton cerveau, et ça le stimule de ouf, et...
Il te faut ça pour stimuler. Ne pas avoir les jeux des balles.
Bah ouais, moi, j'aime bien, tu vois, que sentir que mon cerveau, il travaille dans plusieurs sens en même temps.
Non. Ah, je suis pas d'accord.
Ah ouais, ok.
Mais, je sais pas, moi, les podcasts, vraiment, quand je peux, je mets la vidéo, parce que, vraiment, il y en a un que j'aime beaucoup, et deux filles qui le font, c'est un podcast espagnol, et ces deux filles, elles sont humoristes aussi à côté.
Comment ça s'appelle?
Elles s'appellent Estirando el Chicle. Elles sont super cool. ça, c'est...
On mettra le lien.
Ouais, faudra mettre le lien, parce que là...
Étire le chewing-gum, en gros, c'est la traduction. Mais en gros, c'est deux filles du coup qui font du ça s'appelle comment, du stand-up quand elles
parlent, du stand-up, c'est ça. Ouais.
Voilà. Une chose qui est arrivée après leur podcast, tellement elles étaient expressives et rigolotes en fait, elles sont hyper marrantes en fait toutes les deux, et les voir discuter entre elles et voir les visages qu'elles font, mais elles sont, et surtout que il y a des moments en fait où il y a des silences, où elles commencent à rigoler, où elles font n'importe quoi, et si tu le vois pas, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Okay. Après leur podcast à la base, il a toujours été un radio. Tu savais pas ce qui se passait, mais t'étais habitué à ne pas savoir. Okay. Tandis que dès le moment où t'as commencé à voir la vidéo, tu vois toute l'aura et tout ce qui se passe autour d'elle, et en fait c'est tellement rigolo que ça me manque après de pas les voir, tu vois.
Parce que ça devient taillé pour le matériel vidéo et podcasté.
C'est ça. Après, c'est vraiment podcast. Enfin, les filles, elles sont vraiment sur Spotify et tout. Oui. Et elles sont un peu sur YouTube aussi, mais vraiment, elles sont sur des plateformes d'écoute, hein, pas de visionnage comme YouTube, quoi. Elles sont vraiment podcast juste audio, mais moi, de les voir, ça me... Je meurs de rire. J'ai besoin de les voir, quoi. Elles sont géniales.
Ouais, c'est parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un... Enfin, quand t'es sur YouTube en vidéo, très clairement, c'est vrai que ça te rajoute un visuel. Mais je pense qu'à la base, le podcast, c'est quand même fait aussi pour l'audio. Et c'est vrai que si on met ces trucs sur Spotify ou sur Deezer ou sur Apple, l'idée, c'est que ça soit aussi marrant à entendre qu'à regarder.
Ouais, exactement.
Sinon, c'est que forcément, il y a une des plateformes qui est désavantagée par rapport à l'autre, ce qui ne devrait pas être le cas, je pense.
Ouais, c'est quoi ta vision de ce truc-là par rapport à ton émission? Parce que du coup, tu as commencé ça pendant le Covid, et qu'est-ce que tu imagines...
Enfin, oui,
quelle est ta position et qu'est-ce que tu imagines faire encore plus tard, quoi?
Oula, mais c'est une interview en inverse.
Mais complètement, mais moi c'est ça qui m'intéresse.
D'accord, ok, bah, très bien. Non, en fait, alors fun fact, j'ai pas commencé pendant le Covid, j'ai commencé avant le Covid en réalité.
D'accord.
Puisque à la base, le premier épisode que j'ai enregistré, c'est fait, je crois, une semaine avant le premier confinement. Et on était en présentiel et c'était vraiment autour d'une table avec ma tablette qui enregistrait tout le monde. Donc vous pouvez aller le voir sur internet. Il est là, c'est le pilote qui s'appelle comme ça. Alors du coup, c'est un son qui est un peu pourri. On est tous hyper gênés les uns les autres, etc. Mais c'est vrai, il y a quelque chose d'un peu plus vivant. Et à la base, moi, le but, c'était de faire ça vraiment, faire que du présentiel. Tu vois, vraiment le podcast classique. J'invite des gens chez moi. On a des micros, on se parle en face à face.
Ah, génial.
Et c'était ça le projet de base, c'était ça. Et le fait est que une semaine après, il y a eu le Covid. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu comme comme un con avec ce pilote, j'avais envie d'en faire plus, et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, en attendant que ça se termine, parce que ça va certainement pas durer longtemps, ce confinement, on va le faire en distanciel. Sauf qu'en fait, ça a duré 4 mois, le confinement, et que du coup, de distanciel en distanciel, il y a de plus en plus de gens qui se sont rajoutés à l'émission, mais c'est pas forcément des gens qui vivent en Ardèche, là, au moins où je vis, et c'est même aujourd'hui, à l'heure actuelle, plus des gens qui vivent ailleurs qu'en Ardèche. Donc, un peu sans le vouloir, au final, cette émission, ce podcast est devenu quelque chose de full distanciel. Et à l'inverse, tout le matos que j'avais acheté pour faire du présentiel est pratiquement inexploité. Je vous disais de temps en temps, j'ai sorti la semaine dernière quand il y avait Jules qui était présent. Mais sinon, il est dans un carton et en fait, je fais majoritairement que du Internet. Mais malgré tout, je trouve que je suis content parce que ça m'a permis d'ouvrir cette émission à plein d'autres personnes que je trouve hyper intéressantes, dont vous faites partie d'ailleurs hein, dans la foulée. Et que si j'étais resté en présentiel, je ne vous aurais jamais vu en réalité parce qu'il aurait fallu que vous veniez. Donc j'amène le matériel et ça aurait été quelque chose de beaucoup plus compliqué.
Ouais,
donc
d'un week-end en Ardèche, tu vois.
C'est toujours faisable. Hein. Ou même si je viens vous rendre visite en Savoie, ça peut se faire aussi. Mais l'avantage du distanciel, c'est qu'au final, en termes de, on va dire de comment dire ça, en termes organisationnels, ça reste quand même beaucoup plus simple parce que les chroniqueurs, les gens ne peuvent rester chez eux directement. Et une fois que c'est fini, ils retournent à leur vie. Ça a duré une heure et puis. C'est plus simple, en fait. Je me rends compte que pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple.
Ok. Donc, toi, ce que tu imagines pour la suite à court et moyen terme, c'est de continuer pour l'instant comme ça ?
Honnêtement, moi, en fait, je galère beaucoup à organiser des trucs en présentiel. C'est-à-dire que je propose, mais tous ceux qui sont présents en Ardèche ont beaucoup d'emplois du temps assez difficiles. Et c'est là où je me rends compte justement que c'est vraiment très différent d'organiser en distanciel et en présentiel, parce qu'en présentiel, ça demande vraiment la vraie présence des gens, même s'ils habitent à un quart d'heure, voire à 2 secondes de chez moi. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et comme le problème, c'est que je me suis lancé dans un truc où j'ai une certaine régularité, je peux pas lâcher le distanciel parce que c'est ce qui me permet d'avoir cette régularité. Après, pour ce qui est de l'émission en général, il y a plein d'autres projets. Hein. Là, je suis en train de faire du montage d'animation qui sortira quelques semaines après cet épisode-là. On est pas mal focus sur du JDR en ce moment, que ce soit sur Twitch, que ce soit
en parler,
etc. Jules, il a plein de projets aussi. Il veut faire un JDR Vurm. Enfin, il y a plein de trucs moi, j'ai d'autres idées aussi en tête de peut-être essayer de faire des choses plus en Twitch aussi, ou alors des interviews en caméra aussi. Mais ça, c'est des choses qui demandent vraiment du temps du temps de réflexion, on va dire, quoi.
Ok.
Je connais 2 mots sur les 20 que t'as dit. D'accord, jeu de rôle, c'est tout. Voilà. Oui, ça c'est, j'ai compris.
Désolé. Pour simplifier, j'ai parlé de Vurm. Vurm, c'est un jeu de rôle papier qui a été créé par Emmanuel Roudier, d'ailleurs, avec qui on a fait une émission aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais que Jules est fan de Préhistoire et fan de JDR, et du coup, fan de jeux de rôle. Et du coup, il m'avait parlé du fait qu'il aimerait bien essayer d'organiser des jeux de rôle dans cet univers-là, un univers sur la Préhistoire. Quoi.
Voilà. Wow.
Vurm, c'est une période glaciaire. Oui.
Ah, d'accord. Voilà. Ils ont appelé le jeu comme ça.
Exactement.
Oui.
C'est des geeks scientifiques. Voilà.
C'est incroyable. Hein. Il y a quand même des niveaux. Je pensais que j'étais un peu geek. En fait, pas du tout. Je suis une sous-merde des geeks. Il y a vraiment toute une élite scientifique.
C'est parce qu'en fait,
il y en a. Moi, je suis pas dedans. Hein. C'est pas cool.
Les geeks aujourd'hui, t'as plusieurs sortes de geeks en fait. T'as un univers qui est tellement large de plein de trucs qu'on peut être geek de JDR, de jeux vidéo, de séries, de cinéma, de jeux de téléphone portable. Et puis les uns ne vont rien comprendre à l'univers des autres. Hein. C'est aussi
incroyable.
Ça la magie de plein de trucs.
Ce qui va permettre de découvrir. Moi j'étais jeune, c'est pas comme ça.
C'est justement en se connectant à ce Discord là qu'on ne comprenait rien et qu'on se sentait vieux à cause de ça.
Parce que vous avez eu du mal à vous connecter dessus, c'est ça?
Moi, j'ai jamais fait. Enfin, j'ai rarement utilisé Discord. C'est surtout qu'en fait, je sais pas, je pense que il y a 10-15 ans, le milieu, vraiment, genre, c'était un peu tous pareil. T'aimais les jeux vidéo, t'aimais un peu tout ce qui était manga, animé. C'était un peu un espèce de gros geek. Et le reste, mais avec les années, ça s'est beaucoup séparé. Il y a beaucoup, enfin.
Je
pense que ça vient tout simplement de ce qu'on a mis sur le mot geek. En fait, c'est juste quand t'es ultra intéressé et que t'es à la limite tu peux être geek de plein de trucs, comme vous le disiez tout à l'heure, quoi. Enfin, pour le coup,
oui, le mot a plus beaucoup de sens.
T'as certains secteurs de musique où les mecs, tu peux quasiment les dire qu'ils sont geeks parce que ils aiment brancher des pédales et des trucs ensemble.
Des geeks. tu vois.
Ouais,
on ne serait pas appelé des freaks and geeks. Ouais. Tu vois, c'était, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'avant, il y avait déjà toute une espèce
C'était sûr que c'est...
de bullying c'est... sur ces personnes-là qui étaient genre les,
aussi, ouais. Ouais.
Les nerds slash freaks slash geeks.
Ouais, mais c'est... C'est aussi que tu as eu une évolution de pensée, c'est-à-dire que ce groupe-là, cette caste, on va dire, de gens geeks un peu différents, hein, qui s'intéressent à plein d'autres trucs, était un peu en minorité parce que cette technologie, cette culture japonaise ou tout ce que tu veux, était aussi mis à l'écart, d'une part, par la société en elle-même. Hein, c'était assez mal vu de rester derrière un ordinateur, c'était assez mal vu de regarder des animés ou de lire des BD ou des trucs comme ça. Et du coup, forcément, ça rejaillissait, je trouve, pas mal sur les vies scolaires. C'est-à-dire que forcément, t'avais les gens qui aimaient bien ça et qui allaient être en retrait par rapport aux autres gens qui ne connaissaient pas cet univers. Aujourd'hui, les choses, elles sont différentes dans le sens où... t'as cette idée que en fait la technologie tout le monde l'a maintenant et tout le monde la connaît et en fait c'est les geeks finalement qui ont gagné entre guillemets parce que cette technologie elle est très importante et elle a permis d'ouvrir plein de cultures différentes et de permettre aux gens de s'intéresser à des tas de cultures et donc du coup de devenir des geeks spécialisés dans différents domaines finalement.
Ouais, et je trouve aussi qu'il y a quand même aussi tout un facteur mode qui est venu derrière tout ça, c'est devenu
oui
quand même...
probablement
maintenant c'est cool d'être geek.
C'est même la norme en réalité, tout le monde voilà, est geek de quelque chose.
C'est ça, tandis que avant.
Mais j'avoue qu'il y a un truc, je sais pas, j'ai une cousine qui est plus jeune que moi, tu vois, genre 17-18 ans. Elle m'a sorti un truc que j'ai pas compris. Ouais. Je sais plus, on parlait de son Instagram ou de. Moi, je suis. Faut savoir que
TikTok.
Lui, par contre, il est vraiment.
Moi, je fais rien. Elle me dit, mais non, mais moi, je suis pas trop geek d'Instagram, machin. Je fais, mais. C'est la rencontre entre ce terme-là, le terme de mode, le terme d'appli à la mode. Enfin, j'ai rien compris. Et en fait, là, ce que vous dites, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment rentré dans les codes, entre guillemets, à la mode.
Ah, mais carrément. C'est moi, je me suis vraiment pris une grosse claque dans la gueule. Enfin, j'aimerais bien aimer être adolescente en 2021. Enfin, parce que ouais, avant, enfin, c'était pas cool, quoi, d'être geek. Maintenant, ma cousine, elle était trop contente de parler avec moi de manga. Moi, avec son âge, je me serais cachée avant de dire que j'avais des séries de manga de chez moi, des livres. Les gens m'auraient jeté des trucs à la gueule, je pense, en me disant, oh non, la chinoise, n'importe quoi. Ils auraient tellement bien compris. Et maintenant, je trouve qu'il y a quand même une ouverture d'esprit qu'il n'y avait pas avant. Ça devient mainstream, ça devient à la mode. Donc, d'un côté, je trouve que c'est un peu nul parce que c'est bien quand un truc est qu'à toi. Mais en même temps, c'est chouette aussi que du coup, ça laisse vraiment que tout le monde puisse aimer quelque chose comme ça. Ça reste pas restreint.
Ouais, puisque du coup, si t'es encore dans ce mode de cloisonnement et de bullying d'une certaine sorte de caste ou d'étiquette, en tout cas, ça ferme les frontières et ça ferme ça fait que cette mode-là n'est pas du tout ouverte à qui que ce soit. Et du coup,
à personne, bien sûr.
Bien sûr.
Ouais, et puis c'est foutre des étiquettes sur des trucs. Enfin, moi, je suis vachement à cheval là-dessus. Je reviens sur le monde musical, tu vois, on a énormément tendance depuis des dizaines et des dizaines d'années à mettre des étiquettes sur le genre, sur qui pratique telle musique, etc. Ouais. Et j'ai l'impression que ces étiquettes-là, elles peuvent être employées pour d'autres trucs, et notamment ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, là, les geeks. T'as l'impression qu'en fait, maintenant, on arrive à quasiment mettre des étiquettes sur tel
tout,
type de geek, etc.
Des sous-genres de tout.
Ouais. Et ça en vient complètement.
C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la musique, parce que je trouve que ça s'applique vraiment beaucoup, justement, à la musique. Il y a un côté très sectaire, en plus, dans la musique, où il y a souvent des gens qui vont dire, bah, moi, je suis fan uniquement de rap, death metal, classique, tu vois.
Ouais,
mais c'est quoi, en fait?
Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que ces dernières années, enfin, il y a eu un peu une sorte de, je pense qu'on avait plus ça. Il y a eu une sorte de boom un peu de toutes ces étiquettes, notamment le milieu métal, où il y a eu un moment où vraiment on allait dans des sous-genres. Mais on en revient quand même. En fait, la pensée générale, c'est qu'on, à mon avis, en tout cas, moi, les gens que je fréquente, et les gens avec qui je peux discuter de musique ou quoi, j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on a strictement rien à foutre de toutes ces étiquettes et on conçoit pas tout ça. Bah ouais, il y en a forcément. Et en fait, il y a aussi tout le truc de... Moi, je me rends compte qu'il faut arriver à nommer le style que tu fais ou nommer un tel style ouais, pour les affiches ça. De concert. Afficher un concert, faire de la com pour un concert, j'ai l'impression que là, l'étiquette, ben, ça va être le seul moment où elle aura, ouais, elle aura une sorte d'utilisation, parce que bah, voilà, tu vois l'affiche, tu vois le nom des groupes, tu connais peut-être pas forcément, et tac, tu vas donner le style. Moi, je suis, ouais. je suis pas d'accord avec ça, mais bon, à la limite, l'étiquette, elle peut servir à ce moment-là, quoi. Mais encore que, tu vois.
Je trouve que quand même dans la musique, vous êtes quand même... Enfin, vous, non, je t'inclus pas dedans, mais c'est vrai que... Toi Mais bah oui, là, je travaille dans une salle de concert, et ouais. Je connais pas beaucoup la musique, mais quand même, je suis pas capable de te nommer tous les sous-genres de métal qui existent, mais je différencie du métal du pop. D'accord? C'est bon. Non, rigole. Mais... Mais c'est vrai qu'on avait eu un festival de métal sur deux jours. Et bah, du coup, moi j'étais là, vu que je travaillais dans cette salle. Et,
le 35, voilà. Pour ceux qui veulent venir, à Chambéry.
Super, c'est une super salle. Et en fait, sur ces deux jours, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour écouter différents types de métal. Ouais. Moi qui n'y connaissais pas trop, j'ai été jugée... de façon horrible par toutes ces personnes qui sont venues et me demandaient conseil ou me demandaient alors c'est quoi les groupes ce soir, c'est quoi comme type de musique, toi tu préfères quoi, et moi sincèrement c'est du death, non c'est du metalcore, non c'est du, enfin c'était vraiment très compliqué pour moi de voir la différence même en l'écoutant. Même à un moment j'ai eu une discussion avec des gens qui étaient là et j'ai dit n'importe quoi. Et je sais que j'ai dit n'importe quoi parce que le lendemain, il y avait un groupe qui venait jouer au Brunzinc et qui jouait un style de musique qui était le style de musique que j'avais dit et c'était plutôt du psyché, genre plutôt pop. Et du coup, à ces personnages, je leur ai dit n'importe quoi. Elles m'ont regardé vraiment et elles sont un peu parties. Enfin, bref. Donc, vraiment, non seulement il faut que tu connaisses et je trouve que c'est quand même un milieu, si tu connais pas, ils te jugent.
Oui, c'est un milieu où t'es très rapidement jugé, mais pas que le métal, hein, n'importe quel genre de musique. Hein. Souvent, les fans de quelque chose vont très rapidement souvent juger les néophytes qui connaissent pas leur univers à eux.
Mais je pense que, tu vois, ce milieu-là...
Les fans en général de tout.
Ce milieu-là, de tout, ouais, c'est métal, enfin, là, entre guillemets, c'était un peu black, et puis bon, il y avait tout ce qui gravitait
autour. Métal,
ouais, c'était même presque réducteur, parce que t'avais plein d'autres trucs qui gravitaient autour.
Moi, j'y connais, ouais.
Je pense que, d'ailleurs, ce milieu-là est super intéressant, ça vaudrait le coup de pouvoir en discuter plus longuement, mais à mon avis, aujourd'hui, c'est plutôt, entre guillemets, la vieille école qui va te juger, justement, les néophytes et les machins. Je pense qu'aujourd'hui, on en est beaucoup revenu là-dessus, quoi. On n'en a plus grand-chose à faire de quelle sous-classe, de quel sous-genre c'est, machin, enfin... on en revient quand même beaucoup, moi c'est la sensation que j'ai en tout cas, on en revient beaucoup à genre, tu vois un groupe comme Cream à l'époque, je suis un peu, je passe pour le vieux de la vieille.
Je connais pas, j'ai pas la référence, je connais pas, hein. Je suis dans une salle de concert, voilà comment on me
joue. On en revient à Cream, tu vois, qui disait just shut up and play, quoi, enfin, vas-y.
Ouais,
tu,
tais-toi et joue, quoi.
Bah ouais, tu te fous sur scène, t'essayes de faire un matériel, t'essayes d'émouvoir les gens, t'essayes de... d'amener les gens
ça, le but, au final.
Et de partager, etc. Et bah vas-y, go. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont voir des concerts qui sont dans cet esprit-là.
Dans cet esprit-là. Mais je pense qu'il vaut mieux être dans cet esprit-là plutôt que dans un esprit sectaire et de se dire « Non, cette musique-là va pas m'émouvoir de toute façon, donc je m'en fous, j'y mets pas les pieds parce que j'aime pas ça, quoi. »
D'autant plus qu'il y a, depuis le Covid, etc., en fait, là, je sais pas si tu l'as senti comme ça, Ariane, mais depuis qu'il y a le Covid, le Brunswick rouvre, referme. Et quand le Brunswick rouvre un peu sur une longue période, qu'ils ont une prog bien remplie, en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent au Brunswick qui ont juste envie de passer une bonne soirée en écoutant la musique live et
dans
un canon. Voilà.
Après, c'est ce que t'as dit, en fait, Marc, c'est que c'est les fans. En fait, les fans sont totalement dans la non-acceptation de nouvelles personnes qui vont connaître la totalité des choses.
Moi,
mais quand on
parle
de musique, mais dans plein de choses aussi.
Je pense que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je pense que ouais, je suis assez d'accord avec Ariane sur ce coup-là. Je pense qu'à partir du moment où on est vraiment ultra méga méga fan de quelque chose, on a souvent du mal à entendre des avis extérieurs sur ce qu'on aime nous. si ça fait toujours un peu bizarre. Je sais pas, par exemple, je suis un très grand fan de Star Wars, et dès que quelqu'un qui va me parler de Star Wars sur des trucs qu'il va pas connaître, ou alors qu'il va juger tel film qu'il considère bien ou pas bien, alors que moi c'est l'inverse, je vais avoir tendance à plus facilement perdre mon calme que pour des trucs dont j'en ai rien à foutre, en fait.
Mais carrément. Bah, en fait, carrément. Même moi, même j'essaie de réfléchir, moi, à des choses que j'aime beaucoup et que je connais beaucoup, des films, des séries, des livres. Bon, t'as parlé de Star Wars, je sais pas, je parle d'Harry Potter par exemple.
Ouais,
il y a quelqu'un qui me dit un mot de travers, je sais pas, une des maisons d'un Harry Potter, il me le dit de travers, je vais le regarder, je vais dire alors toi. Enfin, c'est comme tu dis, beaucoup plus intransigeante en fait à des choses comme ça, comme si ça devait être acquis pour tout le monde.
Bah, j'ai pas l'impression d'être dans un truc comme ça, et pas le milieu que je fréquente en tout cas pour la musique.
Ouais.
Qu'on soit totalement...
Moi, je suis comme ça dans la vie en général. En fait, c'est intransigeant.
Après, c'est un genre de caractère, quoi, tout simplement.
Ça, c'est bien vrai.
C'est tout. Moi, je suis à tout le monde, tout le temps.
Et parce que tu parles beaucoup de musique, Julien, mais du coup, t'es musicien alors de ton côté, à tes heures perdues ?
Oui, pas qu'à mes heures perdues.
Musicien, non.
Ouais, on essaie de bricoler des trucs.
Et parce que du coup, Julien, tu joues de quoi alors comme instrument ? Tu joues de plusieurs trucs ou
Ouais, ça fait des années que je joue de la gratte. Et puis...
La gratte.
J'ai un vieux clavier des années 70.
Ah ouais.
À la base, j'aimais pas du tout ça quand j'ai commencé à écouter de la musique, que j'étais tout mou, tout jeune. Et maintenant, je suis complètement accro à ce machin. Et là, j'essaie de monter un projet solo avec cet instrument. Bon, c'est que le balbutiement, je commence seulement, mais plutôt gratte. Et puis, on a un groupe qui s'appelle Slang. On mettra le...
on mettrait le lien dans la description. Vous avez un YouTube, un Spotify, un truc comme ça ?
Bandcamp. Ça, c'est le site parfait. Si vous, auditeurs, voulez chercher de la musique dans tous les sens, c'est vraiment top. En fait, c'est très simple. Tu cherches un peu par... autant ils publient des articles que tu peux aller chercher par style ou par nom. Et en fait, c'est très simple. T'as la musique, t'as le merch, si les gens ont mis en ligne des t-shirts ou des machins.
Ouais.
Et il n'y a que ça, quoi. Et bien souvent, t'as de l'écoute libre, des morceaux. Donc moi, je trouve que c'est un des sites les mieux et les plus prolifiques, entre guillemets, des internets. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, j'ai une réponse infaillible.
Vas-y.
Le mieux qu'on nous ait trouvé à dire de ce qu'on faisait, je sais pas, entre un truc un peu progressif et un truc un peu psychédélique. En
D'accord,
fait, t'as
okay.
autant des trucs qui sonnent un peu hard, limite, je sais pas, métal. Puis t'as des trucs autant un peu plus bluesy, un peu plus calme, tranquille.
Ouais.
Et voilà, t'alternes un peu le but, c'est un peu d'alterner d'ambiance. Et
ouais, vous fermez pas à telle ou telle chose, quoi, en fait. En fait, vous composez ce que vous avez composé à l'instant T.
Vous n'allez pas non plus faire de la salsa. Hein.
Non, c'est sûr, mais en fait, c'est d'amener les gens dans une sorte de trip, là, et puis essayer de les faire, les accompagner dans le truc, quoi.
D'accord, ok. Et tu fais ça depuis combien de temps, du coup, sans indiscrétion ?
Je sais plus combien calculer. Là, on va refouler des mails et je crois que le batteur a mis qu'on jouait depuis 7 ans, mais je pense que c'est un peu
7
plus.
Ans. Ah, oui.
En fait, on a commencé avec le batteur... Je faisais de la guitare depuis quelques années et on se retrouve en cinquième avec le batteur. On est copains depuis l'enfance parce que nos pères, ils se connaissent très bien. Et on se retrouve en cinquième. Moi, ça fait quelques années que je fais de la guitare. Et lui, un jour, il se pointe, il fait « Hey, j'ai acheté une batterie, je veux faire de la batterie, tu veux qu'on joue ?» Depuis la cinquième, je pense qu'on fait de la zik, on fait des conneries ensemble.
Oh, c'est ouf.
Et voilà. Et en fait, on a eu des petits groupes, des petits machins, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti... Et là, cette formation-là, ça fait un peu plus de 7 ans, je pense, qu'on est ensemble, mais je sais pas, on calcule pas trop. Puis tu sais, genre de truc, c'est tu répètes, tu viens à créer un peu des morceaux, puis tu essaies de les présenter aux gens.
Ouais.
Puis là, avec l'arrivée dans les 20-25 ans, ça fait que on commence tous à faire des jobs et des machins, donc t'as des moments de pause, puis t'as des moments de reprise. Là, le Covid, ça a été quand même très compliqué pour tout le monde.
Ça n'a pas aidé, j'imagine.
Ouais. Ah ouais, pour tout le monde. Et du coup, en fait, juste avant le Covid, pareil que toi, on se mettait dans un nouveau projet. On se disait, vas-y, on va essayer de faire une mini tournée un peu autour de chez nous, autour de la France, machin. Et puis,
plein de tournées.
Ouais.
C'était génial. On a tout prévu. C'est tout tombé à l'eau.
Ok, jusqu'au.
En fait, pendant le Covid, on a fait deux dates l'été dernier. à chaque fois avec un bon copain à nous, l'Orchidée Cosmique, la première fois que j'avais fait un post.
Oui,
c'est la pub là.
T'en avais mis un de ces morceaux sur ton.
Exactement.
La première fois que t'es venu,
exactement.
Aussi, ça.
Ouais. Un brave monsieur qui a aussi un autre projet à côté de Metal. Donc les deux concerts, on les avait fait avec lui, il était passé, on s'était démerdé pour en faire un des deux là, c'était chez des copains à lui, paumé en Haute-Loire. Au milieu des radis et des salades, c'était génial. On avait à faire venir des copains, des autres groupes de copains et tout. C'était parfait. Donc, je pense que, en fait, là, à court terme, avec toutes ces histoires de Covid, ben, les concerts, ça va être ça. En fait, c'est un peu réorganiser le truc un peu à la sauvage où,
ouais.
Bon, dans les salles, il y a encore des salles ouvertes, hein, et c'est très bien. Je pense que là, à court terme, c'est un peu ça. L'idée
ouais,
des concerts, c'est de les faire un peu à la sauvage.
Il va réapprendre à se réorganiser avec la maladie quoi, en fait, qui est présente.
Moment entre être assis et boire ta bière assis et aller servir au bar et boire ta bière debout. Je sais pas.
Oui.
Je veux pas.
Oula, on va rentrer
dans. Bah ouais, non, mais c'est sûr. C'est pas là, mais bon, ouais.
Alors, est-ce qu'assis en plus que. Quand debout et du coup danser, hein? Parce que moi, pas d'accord.
Ouais, c'est un peu voilà.
Et toi, Ariane, de ton côté, t'as fait des études d'art, il me semble, non? C'est pas ça?
Oui. Non, moi, c'était pas. Moi, j'ai pas commencé dans mon garage avec des potes qui jouaient à la batterie.
Wow.
Alors, j'avoue que c'était quand même un rêve de tout ado, je pense. Tous les jeunes, quand ils ont 12-13 ans, ils sont tous là. Ah, je vais avoir un groupe. Du coup, ils sont là, essayent de rapprocher tous ses potes. Personne joue aucun instrument, mais on est tous là. Vas-y, je vais dire à ma mère que je vais prendre des cours de guitare. Voilà. ma mère, une fois, elle a acheté un piano. J'ai joué 2 jours dessus et j'ai laissé tomber. Parce que voilà, quand t'es ado, les passions durent.
Ça dure 2 jours.
Ah non, ça c'est ma mère qui l'a acheté pour elle. Alors, faut arrêter, hein. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des passions quand t'es, même, moi, je dirais ado, c'est vraiment le début de l'adolescence où tout ce que tu commences, c'est mis à fond et ça dure un jour et demi. Ça, c'est stylé. Moi, du coup, il y a quelque chose qui a duré plus longtemps. C'était plutôt... Et le domaine artistique, la peinture et le dessin.
Ouais.
Donc, moi, j'ai beaucoup dessiné quand j'étais petite. Et beaucoup aussi influencé par toutes les bandes dessinées, par le manga et tout ça.
Ouais, c'est ce que tu disais en début d'émission, ouais, c'est le Japon beaucoup, quoi.
Ouais, carrément, et du coup, j'essayais de recréer mes propres BD, recréer mes propres trucs en faisant mes propres dessins, et c'était très chouette, j'ai revu tout ça, c'était à Noël quand je suis rentrée chez mes parents, j'ai vu tous les dessins que j'avais faits quand j'avais 1 an et demi d'âge. Écoute, j'avais pas si honte de moi. Tu sais, des fois, on regarde, on voit ce qu'on a fait avant et on a un peu une espèce de sentiment très cringe de oulala, quelle horreur.
Oui.
Mais non, ça allait. Vraiment, c'était pas si con que ça. C'était rigolo. C'était mignon. Et comme ça, j'ai continué dans le dessin et j'ai commencé donc mes études supérieures d'art.
Ouais.
Et j'ai donc fini mes études aux Beaux-Arts, du coup, l'année dernière, donc j'ai un bac plus 5, j'ai un diplôme national supérieur. D'art plastique et du coup, d'expression plastique. Et,
ouais.
Voilà. Donc,
qu'est-ce que tu vas faire avec ça?
Avec ça, eh bien, je vais devenir artiste et je vais devenir célèbre. Voilà. Si le 2 février, je suis célèbre. Mais sûr.
Mais est-ce qu'il y a un endroit réellement où on peut, je sais pas, où t'as mis des trucs que tu, enfin, de manière publique, des dessins ou des œuvres, des trucs comme ça que
oui, bien sûr. Du coup, j'ai un compte Instagram public où il y a vraiment, c'est un compte donc artistique. C'est un peu comme une page Facebook.
Ouais.
Et là, il y a donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et j'essaye de le mettre à jour le plus que je peux.
Dans le même sens que Bandcamp, tout à l'heure, je disais très simple, tu cherches la musique, tu cherches le machin.
C'est ça.
Pour le coup, Instagram, je pense que c'est pas mal aussi pour des trucs visuels dans.
Ah, tout à fait, ouais. C'est clair.
C'est super, surtout qu'en fait, les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est grâce à ça, en fait, que les gens, il y a des...
Ça permet de se lancer dans plein de trucs, en fait, et d'essayer d'avoir une forme de visibilité que tu pouvais pas avoir sans ça avant, quoi.
C'est ça. Surtout, c'est la visibilité qui est, du coup, totalement aléatoire et qui fait que des gens du monde peuvent voir ce que tu fais sans forcément taper ton nom, mais juste par hashtag ou des trucs comme ça. Ça fait que
tu peux
leur apparaître sur leur truc de recherche, en fait. Et c'est comme ça que toi, tu vois ce qui se passe dans le monde. Voir si t'es plutôt branché art ou vu que c'est toujours dans des algorithmes, ça va être toujours autour de ce que tu regardes et ce qui te plaît. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup de trucs, de comptes artistiques, des choses comme ça qui m'apparaissent sur mes recherches.
Ouais.
Et je pense que bah, mes trucs aussi apparaîtront sur des recherches d'autres personnes partout dans le monde. Et c'est vraiment bien, c'est aussi une façon de montrer ce qu'on fait sans se limiter à sa ville ou à son pays.
Ouais.
Surtout quand tu es à Aix-les-Bains, en Savoie. voilà. Donc, j'avoue que Instagram, c'est quand même une plateforme gratuite avec laquelle tu peux montrer ce que tu fais.
Oui, et puis qui n'a pas Internet ou qui n'a pas un bout de connexion.
Ça fait une page web, c'est accessible d'un ordinateur, c'est accessible de partout. Compte ou pas compte Instagram, tu peux toujours rechercher ça comme une page web, donc c'est toujours très cool. Bah, c'est gratuit.
T'as accès quand t'as pas...
Ouais, tu peux aller voir quand même. Ouais, c'est comme Twitter, etc. Ça abolit les frontières, enfin, d'une certaine manière, ces trucs-là.
C'est ça. Après, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un site web, mais pour avoir un site web aussi, je trouve que ça donne un certain quota à la personne que quand t'es débutant dans quelque chose, c'est trop vite. Enfin,
je pense qu'Instagram, c'est super bien quand on débute en art et qu'on essaie d'avoir un minimum de visibilité. Insta, c'est parfait pour de la com, pour montrer comment ça se passe, etc. C'est l'idéal. Tu peux communiquer, story, etc. Enfin, je pense que c'est un outil de communication qui est absolument extraordinaire. Hein.
Surtout qu'en fait, tout le design et toute la com qui est faite autour, c'est pas toi qui la gères, en fait, c'est le site. Donc, tout est hyper bien fait, tout est hyper chouette, le logiciel, il est chouette, le design est bien pensé, bien réfléchi. Donc, en fait, tu rentres dans une espèce de case qui est déjà hyper agréable visuellement. Et tu vas pas te perdre à essayer de faire une page web que peut-être visuellement au niveau design va être un peu dégueu parce que t'as aucune connaissance en design. Enfin au moins là déjà tout est cadré, t'as juste à poster des trucs et ta page va être comme celle de notre personne, on s'en fout. Les connaissances en design ou les goûts que chacun a vont être tous égaux, on va tous avoir le même type de background quoi. Sur une photo,
et c'est bien aussi. Quand t'as les moyens, tu peux te faire... Tu vois, genre, ça met à plus ou moins arriver de tomber sur des sites où c'est des gens qui font de la photo, de la vidéo, qui créent leur site. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est quand t'as les moyens d'héberger un bout de serveur.
Mais voilà, c'est ça. Donc ça, déjà, c'est bien. Et après, il faut avoir les connaissances hein, pour avoir faire tout ton truc qui soit stylé,
après,
qui soit...
Des gens qui
mais c'est ça, voilà. Quoi, mais...
Et moi, j'en profite pour faire une autre pub. Un autre bon copain de Chambéry, là, qui s'appelle Yoke, qui a fait une collab avec une fille qui fait de la photo et de la vidéo.
Ok.
En gros, lui, il fait la bande-son, et elle a fait une vidéo, un clip, quoi, pour sa bande-son. Et son site, j'ai trouvé le site de la fille, est super bien foutu, parce que, en gros, t'as un petit bandeau au-dessus, où tu sélectionnes quelques items, mais sinon, la vidéo est vraiment en pleine page, quoi.
Okay.
C'est vraiment le truc designé pour te mettre vraiment pour t'immerger dans le clip et dans la musique, quoi.
Mmh.
Et du coup, avec la musique de Yoke, je trouvais que ça marchait super bien. Ça, c'est un truc qui vaut le coup. Enfin, c'est un peu l'après Instagram, tu vois. Tu sens que la fille, elle a déjà un peu plus de reconnaissance et tout ça. Elle a pu se créer un site, quoi, tu vois.
Mmh.
En tout cas, la démarche, elle est celle-ci, quoi.
Ouais, elle est déjà célèbre, en fait, c'est juste.
Non, je pense pas. Je pense pas des masses, mais... Mais là, c'est vraiment intéressant de voir ça. En fait, en comparaison de Instagram, quel est le mieux, quel, je sais pas, mais...
Je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais.
Ça dépend ce que tu veux faire, en fait, quoi.
Là, la vidéo pleine page, quoi, c'est vraiment plaisant, quoi.
Bah oui, si tu fais de la vidéo, bien sûr. Après, moi, le plus plaisant, c'est que tu vois ma toile en vrai dans une expo.
Ah, bien sûr.
Donc,
bien sûr,
finalement...
Comme les concerts, c'est beaucoup plus plaisant de voir des concerts de Yoke ou de partie des Cosmiques.
Ta vidéo de ton concert, c'est cool, mais si je pouvais te voir en vrai, c'est toujours mieux. Donc, en fait, je pense aussi que ça dépend.
Je tiens d'accord avec ça.
Mais ouais, sinon voilà ma vie artistique. Non, finalement j'ai quand même, petit à petit je trouve que mes rêves de quand j'étais petite commencent à se réaliser, donc
à
c'est
se former, ouais. Ah ouais, bah c'est cool ça.
Et premier rêve de d'avoir fait quelque chose de ses mains en faisant quelque chose d'artistique.
Ouais.
Et finalement, je suis arrivée jusqu'à la fin, je suis arrivée jusqu'au bout et c'est quelque chose qui me plaît. Je ne me suis pas trompée. Yes. J'ai fait des études.
Tant mieux.
Tant mieux. Et qui sont peut-être compliquées à envisager, mais je pense que quand on veut, on peut. Waouh, cette phrase que je déteste, que je viens de dire, c'est pas grave.
c'est pas forcément quand on veut, on peut. C'est que quand on veut quelque chose, faut essayer, en fait, quoi qu'il arrive.
Quand on peut, on veut. Quand on veut, voilà.
C'est après, on essaye. Et puis si ça marche pas, bah tant pis, ça a pas marché. C'est pas de ta faute parce que t'as essayé.
Bien sûr.
C'est ça le principal.
Bien sûr, bien sûr. Mais oui, pas de positivisme toxique. C'est pas, non, pas aux États-Unis. Yes, we can, maybe. On verra. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a le maybe à mettre derrière, tout à fait.
Mais en tout cas, voilà, donc ce premier truc qui a été quand même plutôt bien réalisé. J'ai quand même mes 5 années d'études. Et le deuxième, c'était quand même le projet de pouvoir aller au Japon. Et je vais réaliser aussi ce petit rêve grâce à une résidence artistique. Du coup, je pourrais partir pendant presque peut-être un an au Japon.
Ah! Donc là, tu vas bientôt partir au Japon, alors, c'est ça?
Bon, bientôt.
Potentiellement.
Si, le Japon.
Avec le Covid, quoi. Enfin, sans le Covid.
Parce qu'il est totalement fermé. Donc, c'est super chouette. Mais, normalement, je partirai en septembre-octobre pour une période de 1 an.
Ah, bah, trop bien. Félicitations.
Donc, c'est vraiment très cool. Donc, voilà. J'ai pu combiner l'art, le Japon, bam, résidence, bam, trop bien. Voilà. Plein de, voilà. Donc, on verra bien. J'espère que ça a débloqué, accéléré un processus pour devenir riche et célèbre.
Ah, bah la fortune, c'est ça, c'est ce qu'on veut tous au final.
Voilà, c'est tout. Les gens pourront dire, hey, il faut pas d'argent. Enfin, bon, hein, toi tes goûts, moi les miens. Bon, ça, j'avoue que le jour où je pourrais ne pas compter combien de sous je vais dépenser d'ici la fin du mois, ça serait cool aussi. Donc, voilà. J'envisage pouvoir en vivre correctement et aisément un jour. Et sinon, eh ben, bon, ça, cette option n'existe pas encore. Okay. Je suis contente.
Bah écoute, c'est l'essentiel, hein. Franchement.
Meilleur à Ariane.
Ouais, alors là, je suis en train d'apprendre le japonais. Tout le meilleur à Ariane, on lui souhaite tout. On lui souhaite tout à Ariane. Là, il faut que. c'est très, très.
Ouais, c'est galère, du coup.
C'est intéressant. C'est le mot qu'on dit quand. Quand on veut pas dire que c'est
fastidieux.
Voilà, on dit que c'est intéressant, mignon, voilà. C'est gentil. Non mais c'est vrai que je m'étais jamais vue dans la situation d'apprendre une nouvelle langue totalement de zéro, savoir rien à part Ohio et voilà. Et,
ouais, t'avais aucune base malgré le fait que tu regardais un peu des animés quand t'étais gamine.
Après, vraiment... ouais, je sais dire Oni-chan, tu vois.
Okay.
C'est pas où. Enfin voilà, il y avait deux trois mots que je sais ce que c'est, mais de là à pouvoir lire ou pouvoir communiquer ou pouvoir faire une phrase,
ouais,
non. Donc, je suis incapable de comprendre un animé. Il me faut des sous-titres pas en japonais, quoi.
Sous-titres en langue latine, quoi.
Donc
non, mais c'est un peu tout à l'heure. Ça a l'air d'être quand même. C'est incroyable.
C'est une langue très compliquée, ouais.
Bah c'est costaud, quoi, parce que ça n'a rien à voir avec notre langue à nous. C'est pas le même alphabet, c'est pas du tout le même principe.
Concept même de la langue, etc. Là, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est incroyable. Enfin...
Mais c'est. En fait, c'est très pratique. Enfin, c'est très. Ils sont très logiques, je trouve, dans leur façon de faire. Mais c'est un truc logique qui est tellement logique que nous, on n'a pas cette capacité de logicité. Je sais pas comment l'expliquer. Mais le fait qu'ils aient... Enfin, déjà, ils ont 3 alphabets. Il y a l'hiragana, qui est donc leur alphabet de base. Et il y a le katakana, donc c'est un alphabet qui est fait pour les noms étrangers, pour les mots étrangers. En fait, ils ne vont pas utiliser leur mot à eux, avec leur son à eux, pour faire des mots qui n'appartiennent pas à leur pays, à leur phonétique. Chose qui est hyper logique. Mais c'est tellement trop pour ma compréhension mentale. Enfin, c'est incroyable qu'ils aient pensé à faire ça. Enfin, bref, voilà ce que je voulais dire de cette espèce de capacité de se dire, voilà, ça c'est hyper logique, c'est vrai. C'est
perturbant pour nous.
C'est ça, on n'est tellement pas habitué à ça que.
T'es polyglotte, quoi, en fait.
Horizon, voilà, elle parle déjà plusieurs langues avant, donc.
Je parle le français, l'espagnol, quand même, parfaitement. Oui. C'est des langues voilà, avec lesquelles j'ai grandi.
Ouais.
Donc, j'ai jamais réfléchi à apprendre une de ces deux langues, en fait. En fait, j'ai grandi en Espagne, donc je parle, j'étais scolarisée là-bas.
Ouais.
Et j'ai parlé le français parce que, du coup, ma mère, mes parents ont toujours parlé en français. On a toujours parlé français à la maison.
D'accord.
Donc, ça n'a pas été une langue que j'ai appris. Enfin, j'étais analphabète, en fait, de français. J'avais jamais appris à écrire le français.
Ouais.
Par contre, le parler, oui. Donc quand moi je suis arrivée en France, j'ai dû me mettre à écrire le français, chose que j'avais jamais fait. Mais je partais déjà de la base que je savais déjà parler, je comprenais quoi, je pouvais vivre totalement correctement. Le seul truc c'est que je savais pas vraiment écrire le français, donc je faisais une faute par lettre. Mais du coup l'anglais pareil, l'anglais je savais, j'avais déjà quand même beaucoup de notions d'anglais, donc en fait quand j'ai fait des stages ou quand je suis partie à l'étranger ou quand je voyage ça me pose pas de problème de parler anglais, c'est pas une langue que je vais apprendre de zéro, je suis pas j'ai pas un C2 en anglais, mais je peux totalement comprendre et parler, lire et écrire sans vraiment beaucoup de problèmes. Donc me voir dans la situation d'apprendre une langue vraiment de zéro où quelqu'un me parle et je ne comprends absolument pas du tout ce que me disent, où je ne peux pas lire du tout ce qui est écrit, c'est vraiment un sentiment que j'ai jamais eu. Et c'est très perturbant de pas du tout pouvoir communiquer dans une langue, chose que j'avais jamais vécue jusqu'à maintenant, en fait.
Pour les langues européennes.
Ouais. Mais même, par exemple, avec des langues qui ressemblent peut-être des... Je parle pas l'italien, je parle pas le portugais, mais avec de l'espagnol et du français, je trouve que... Et quand même, il y a une sonorité, il y a une sonorité, il y a quelque chose, il y a déjà un même alphabet.
Quelques notions.
Voilà, finalement, on se débrouille, mais oh là là, avec quelque chose d'aussi différent, c'est vrai que c'est...
Je pense qu'on serait tous sur ce constat-là, si on devait apprendre le japonais en tant qu'Européen, en tant que Français.
Bien sûr.
Difficile, quoi.
Bien sûr.
Même pas mais que le japonais, que soit n'importe quelle langue asiatique ou enfin qui sont pas indo-européennes, comme tu disais tout à l'heure, Julien, c'est extrêmement difficile de pouvoir les apprendre, quoi.
Mais tellement stimulant. Enfin là, pour le coup, du coup, c'est quelque chose que tu fais dans le but d'y aller, etc. Mmh. T'as vraiment une vraie motivation.
Ça doit être. Après, c'est aussi se motiver. Bah finalement, je me motive moi toute seule parce que je prends pas de cours de japonais.
Ouais.
Après, je pense que pour apprendre une langue, le meilleur, c'est de pouvoir avoir un prof particulier de la langue. C'est vraiment the best. Mmh. Mais quand on n'a pas les moyens, on fait comme on peut. Mais il y a Internet. Enfin, c'est
ça. C'est génial. Et puis quand tu seras plongé dans le pays en tant que tel, au bout d'un moment, ce que j'ai cru comprendre, les Japonais sont pas très friands d'anglais. Tu seras obligé de te démerder avec ce que t'as et t'apprendras.
Bien sûr.
Parce que c'est l'adaptation, quoi, en fait, presque.
Carrément. Après, c'est quelque chose qui est très. Je pense que c'est. Ça se fait tout seul quand t'arrives, t'es tout seul dans un pays que tu comprends rien, ton cerveau il a fait oulala, alors là, on va commencer à accélérer l'apprentissage. Donc je pense que ton cerveau tout seul se stimule une fois sur place. Moi tout simplement je me suis dit, je serai vraiment toute seule sur place, dans la résidence qui m'accueille, il y a une seule personne qui parle l'anglais, donc en fait... ça va être compliqué.
Ça, j'aurais cru que dans le milieu de l'art, justement,
t'auras pas d'autres Européens avec toi, du coup.
Quoique, j'en sais rien, peut-être il y a d'autres résidents, mais pour l'instant, je sais que dans l'encadrement, en gros, il y a une seule personne qui sait parler l'anglais. Okay. Et je me suis dit, il faut vraiment que moi je puisse aller là-bas et que je puisse faire des courses et savoir ce que j'achète, déjà de base. J'ai eu un blocage sur ça, je me suis dit, alors, je veux quoi ? J'achète du bœuf ou du porc, s'il te plaît. Parce qu'un fruit, d'accord, je sais ce que c'est une banane, donc je vais pouvoir acheter la banane. Ça va être une poire, mais le reste, je sais pas, je me dis, je veux acheter des trucs en sachet ou je sais pas ce qu'il y a dedans, des conserves, il faut que je sache ce que c'est, ou si je veux commander dans un restaurant, il faut que je sache comment ça s'écrit viande, comment ça s'écrit végétarien, il faut qu'il y a des choses que je sache.
Ouais, des trucs très pratiques, en fait.
Voilà, et qu'il va falloir que je sache avant d'arriver là-bas.
C'est les trucs de la vie quotidienne, quoi.
C'est ça, en fait, c'est ça. Et il ne faut pas que je m'attende à arriver là-bas et dire, bon, une fois là-bas, je prendrai des cours, au pire, dans une école de langue. Non.
Je pense que c'est la bonne stratégie.
Ouais, carrément. Et surtout que, comme je disais tout à l'heure, ça a toujours été un monde, un pays qui m'a toujours énormément fasciné. Donc, c'est la bonne excuse pour me mettre, finalement, à apprendre cette langue que j'ai tout le temps écoutée et que maintenant, j'apprends des mots et je me dis, oh non. C'est très rigolo. Donc, c'est vrai que je bosse un peu tous les jours sur ça et chaque jour, je dis plus de choses comme dans les animés. C'est très bien.
Tu vis un shonen là, finalement.
Je vis en shonen. Ouais, carrément. C'est motivant.
Ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Toi, Julien, les langues, c'est pas trop ça non plus ou,
Non, la Savoyarde.
Parce que toi, t'es originaire de Savoie, Julien. Tu t'es pas retrouvé là par hasard. T'es vraiment chez toi, là, à Chambéry.
Quasiment. Je suis au Savoyard.
Ah, t'es au Savoyard. Ah oui, attention.
Bah, c'est rigolo, on peut retomber sur les pattes du groupe.
Ouais.
J'ai pas mal pratiqué l'anglais grâce au groupe. La sœur de ma mère s'est mariée à un Irlandais aussi, donc j'ai des cousins irlandais. C'est eux qui sont devenus bilingues, c'est pas mon frangin et moi. Mais ça a permis quand même d'avoir des accroches là-bas, on y est allé plusieurs fois, tu vois, en solo.
Ouais, trop bien.
Aller voir nos cousins, etc., c'est rigolo.
Ouais.
Mais je pense que dans un créneau où t'apprends l'anglais en France, on sait tous que les cours d'anglais en France, c'est quand même pas jojo.
C'est pas ça, ouais.
La ZICMU m'a bien sauvé, tu vois, très tôt, on regardait encore pré-ado des titres de musique, on essayait de bricoler des textes avec le groupe, de faire des trucs. Alors, c'est sûr que je pense qu'on reprend les textes, on reprend les enregistrements du tout début, c'est absolument ignoble, mais je pense qu'en fait, juste par le chant, par essayer de poser quelques lignes, quelques phrases, quelques trucs, qu'on essaye de les chanter, ça te permet de travailler les sons, ça te permet de travailler les sonorités des mots, et en fait, je pense que grâce au groupe, beaucoup appris l'anglais. Quoi.
Dans la musique, je pense qu'on est tellement bombardé de musique anglaise, enfin, en anglais.
Ah oui, totalement.
Que finalement, depuis qu'on est petit, on est c'est pas devenu presque plus harmonieux, mais quasiment, quoi.
On en vient à la question de est-ce que le rock'n'roll est fait pour être chanté en anglais ou pas. Ça, je pense que j'ai une réponse non, mais en tout cas, ça a été un diktat pendant des années, et c'est sûr qu'on est bombardé de langue anglaise, d'anglophonistes.
Constamment, et pas que dans la musique d'ailleurs, partout. Hein. Tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, c'est vraiment ça. Enfin, il y a des anglicismes, comme tu dis, il y en a des tas partout, et on se surprend soi-même parfois à en faire sans s'en rendre compte.
Ouais, bien sûr.
Et surtout que des fois, dans les autres langues, quand tu apprends des nouvelles langues, quand tu connais d'autres langues, tu te rends compte qu'il y a des mots qui n'existent pas dans la langue que tu parles, mais qui existent dans cette autre langue, par un anglais ou dans mon cas l'espagnol.
Oui, tout à fait.
Tu veux dire quelque chose, et en fait, en français, tu n'as pas un mot qui veut dire, qui représente cette émotion, ce sentiment, aussi bien que ce mot en anglais ou ce mot en espagnol. Des fois, c'est hyper. Donc, je pense que c'est bien aussi de voir
encore parfois.
Moi, j'ai l'impression que pour un parler suffisamment courant, et je parle pas du langage très soutenu, mais j'ai l'impression qu'on a aussi pas mal oublié certains termes français, certains mots de vocabulaire en français, et qu'on va beaucoup plus facilement y assimiler un terme en anglais.
Okay.
Je pense que de l'anglais au français, ils ont une histoire qui est suffisamment commune, certes qui n'est pas du tout à la même racine, mais qui ont une histoire suffisamment commune pour que tu trouves quand même des mots qui se correspondent dans les deux langues.
Bien sûr.
Je sais plus, on a fait, avec Jules par exemple, on a fait de la géographie physique, etc. On nous sort souvent des exemples, par exemple, je sais plus dans quelle culture c'est, mais je pense que c'est la culture un peu amérindienne du Nord.
J'avais le même exemple en tête, c'est les Inuits, non ?
Ouais, c'est ça.
Qui ont 25 mots pour désigner la neige, je crois.
Exactement, c'est le truc qu'on nous ressort souvent. Ouais. Je pense que là, par contre, ça devient une vérité, tu vois. Sur certaines cultures, pour désigner des choses de l'environnement ou désigner
des choses de
la pensée, tu vas avoir certaines cultures qui vont avoir une déclinaison de... Pour nous, nous, on aura une phrase pour décrire vraiment la pensée ou le truc de l'environnement.
Et eux, ils ont juste un
phrase,
mot.
Et eux, ils ont juste un mot qui est différent de tous les autres mots pour tout de suite décrire. Quoi.
Parce que la géographie alors implique de simplifier leur vocabulaire pour désigner quelque chose de courant qu'ils ont tous les jours sous les yeux, en fait.
C'est là encore que je pense l'anglais et le français ont une histoire assez commune aussi géographiquement, quoi. Suffisamment commune pour que tu aies quand même beaucoup de similarités entre le français et l'anglais. On ne trouve juste plus les mots, en fait, ou on n'utilise plus forcément les mots.
Je crois qu'il y a un autre exemple, il semble que, alors tu me confirmeras peut-être rien, mais je crois qu'en japonais, il existe un mot pour désigner les fleurs de cerisier qui tombent au vent ou un truc comme ça, je crois.
Ah, c'est
excellent.
Ça. En fait, c'est ça que je voulais dire. Oui, il y a ça, et aussi, j'avais lu quelque chose qui me... Enfin, je trouvais ça très intéressant, parce que c'est l'envie qui te prend au milieu de la nuit, d'ouvrir ton frigo pour manger, mais toi, t'as pas faim, mais c'est ta bouche qui a faim. Ils ont un mot pour dire ouvrir ton frigo et manger sans avoir faim, mais c'est ta bouche qui a faim. C'est un truc que j'ai fait.
Ouais, c'est fou.
Ouais, c'est trop bien.
Et encore dans le japonais, voilà, parce que c'est ce que... Du coup, il y a les kanji, donc c'est un alphabet qui c'est un alphabet plutôt symbolique, en fait, c'est des dessins qui représentent des mots entiers ou des émotions ou des trucs comme ça. Un mot ou une émotion qui peut s'écrire avec l'alphabet normal, mais qui a comme une espèce de kanji. Et les gens, quand ils se présentent entre eux, leur prénom, ben, ça peut être écrit ou en alphabet normal dans un hiragana ou en kanji. Ouais. Et d'habitude, ils se demandent c'est quel le kanji de ton prénom pour savoir quelle est la représentation donc graphique de la signification de ton prénom, en fait. Parce que si c'est un kanji comme ça, ça va représenter en fait le soleil qui se lève derrière la montagne ou des trucs comme ça. Donc prononcé de la même façon, ça dépend du kanji ou de la façon dont c'est écrit, ça veut dire une chose ou une autre. Et c'est un truc, mais blown-minded. Alors je ne comprends plus rien à la vie.
Ouais, tu m'étonnes.
Mais c'est super intéressant aussi.
Ouais, carrément. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est vrai que c'est au final la culture en lien avec la langue, en lien avec la géographie, comme tu disais, Julien, c'est assez dingue de voir que tout est entremêlé comme ça, quoi, finalement.
Comment ça se fait que tu dis que t'as du mal avec ça? Qu'est-ce qui te...
Parce que je suis pas très très bon en langue, en fait. C'est à part l'anglais que j'ai appris. Toi, t'as appris l'anglais à travers la musique, moi je l'ai appris à travers le cinéma. Mais sinon, j'ai fait un peu d'allemand, mais à part la prononciation qui me reste, j'ai pas rien en vocabulaire.
On l'a appris au collège ou au lycée, on n'en a rien retenu parce qu'on la pratique pas, en fait. Du moment où tu pratiques, en fait, je pense que t'es bon en langue. Enfin.
Oui, peut-être potentiellement. Après, moi, j'ai jamais eu l'occasion de me dire que j'avais spécialement envie. Tu vois, j'avais essayé d'apprendre un peu l'italien quand j'étais à la fac et j'avais pas eu la... Je pense que t'as besoin d'une motivation, en fait, pour pouvoir apprendre une langue. Par exemple, si je m'étais dit, je vais vivre à Rome pendant 3 ans, forcément, j'aurais peut-être un peu plus poussé le truc. Tout comme Ariane t'apprend le Japon en ce moment pour aller y vivre. Le japonais, pardon.
Vivre à Rome, mon Dieu.
mais de mon côté, tu vois, j'ai jamais eu la motivation suffisante pour me dire, je vais apprendre une langue parce que j'ai envie de faire un truc derrière en lien avec la langue. Donc du coup, je pense que de base, je pars un peu démotivé sur le fait d'apprendre une langue ou non. Voilà quoi, c'est pas quelque chose pote, en fait, je pense, au final, avec le recul maintenant que je commence à être assez vieux, au final.
Toi, par exemple, si tu te mets à apprendre l'italien, eh ben, tu vas commencer de zéro pour apprendre l'italien et il y a tout un effort derrière qui va être fait pour vraiment apprendre une langue depuis zéro, comme moi là, que je suis en train de faire avec le japonais. Et c'est quelque chose que, enfin, quand les gens me disent non, mais c'est incroyable, toi tu parles plein de langues, oui, c'est vrai, mais c'est jamais quelque chose que j'ai appris, j'ai pas mis énormément d'efforts à ces langues-là. Donc, en fait, je comprends pas la reconnaissance que les gens vont avoir envers moi, qui parlent plusieurs langues. Je sais pas comment expliquer. Tandis que, si maintenant quelqu'un va me dire, putain, c'est incroyable, t'as appris le japonais en 6 mois, ou tu sais te démerder en japonais, là, par contre, je vais dire, putain, ouais, tu vois, c'est ouf. Je l'ai bossé. Je sais pas combien de mois, je vais me mettre à essayer vraiment d'apprendre ça. Donc voilà, c'est comme quand tu fais des études universitaires. Putain, voilà, j'ai un bac plus 5. Oui, j'ai bossé pour ça, donc c'est cool. Mais quand t'as déjà des langues, enfin moi j'ai grandi avec. C'est pas juste, je trouve, pour une personne qui n'a pas grandi avec ça, de me dire à moi, c'est incroyable. Mais t'as déjà des langues, c'est trop bien. Mais enfin j'ai rien fait. Enfin j'ai absolument rien fait pour ça quand j'avais 1 an. Mes parents me parlaient chacun dans sa langue. Donc, j'ai grandi dans une maison où mon père me parlait en iranien, ma mère en français. J'allais à l'école en espagnol. Finalement, j'étais un enfant hyper perturbé à cause de ces 10 langues dans ma tête. Mais maintenant, je peux les parler et les comprendre. Mais j'ai rien fait pour. En fait, j'ai grandi avec.
Oui, c'est que t'avais pas le choix. T'étais obligé de grandir avec. Donc, du coup.
Ça, c'est comme les connaissances que toi ou tout. Vous avez comme... en histoire ou en géo, on a tous les mêmes parce que on a tous été dans l'école.
Pour le coup, à mon avis, tu vois, avec Marc, on a un parcours qui est similaire. On parlait le français, machin, puis on t'apprend l'anglais, voire l'allemand à l'école. On passe d'un truc où, en fait, quand t'essayes de mettre un minimum d'accent, quand tu le pratiques en cours, au collège, on rit de toi. Si t'es valorisé par le prof, t'es forcément une merde. Et après, plus tard, c'est un vrai achievement. Tu sais parler 2 mots d'anglais, c'est magnifique. Alors que, je pense que le niveau d'anglais chez les Français, mais nul à chier, quoi.
Ah, mais à l'Espagne, c'est pareil, hein.
C'est un truc de fou, quoi.
À l'Espagne, premier pays touristique d'Europe.
On est bercé sur des trucs, alors que tu vois, c'est dans certains pays, des pays du Nord ou quoi. Parler des langues étrangères, c'est exactement le schéma que tu disais.
Oui.
C'est un truc qui est...
En même temps, c'est logique aussi. Imagine-toi le pays, le Danemark. Mais j'étais au Danemark, j'ai fait un stage là-bas pendant 6 mois. Ouais. Tout le monde parle l'anglais. tout le monde le parle parfaitement. En même temps, le Danemark, le Danois, le parlent les gens de Danemark. Le Danemark, c'est un pays minuscule et 70% de la population habite à Copenhague. Il y a deux personnes à Copenhague, en fait.
Ils ne perdent pas leur Danois, quoi.
Non, ils ne le perdent pas, mais en fait, il y a personne d'autre dans le monde, à part quatre personnes, du coup, au Groenland, qui parlent le Danois, et encore, ils ont leur dialecte. Mais... Enfin, je dis ça pour dire que c'est des pays comme la Suède, comme la Norvège,
les pays scandinaves, quoi.
C'est des tout petits pays où il y a deux personnes et demie. Eux, ils parlent cette langue, mais il y a personne d'autre qui parle cette langue. Donc forcément, eux aussi, pour pouvoir accueillir des étrangers et pour pouvoir partir à l'étranger et pour pouvoir comprendre d'autres choses de leur continent et de leur espace européen, ils vont devoir apprendre une langue commune comme l'anglais. Tandis que les Français, les Espagnols, les Anglais, du coup, encore moins.
On a suffisamment de fierté.
Mais c'est ça, déjà, l'Espagne, il y a...
On est trop fiers.
Trois quarts de continents qui parlent l'espagnol. Enfin, il y a énormément de pays qui parlent l'espagnol. Mmh. Pareil pour le français. Donc, en fait, on s'est bien reposé sur mon truc. Après, en même temps, c'est normal. Après, on parle de nous, les Espagnols ou les Français, les Anglais. Vas-y, dis-moi, quelle langue, à part l'anglais, ils savent parler? Parce que nous, quand même, on a un peu une connaissance en anglais. On peut dire hello, machin, tout ce que tu veux. Mais les Anglais, alors là, s'il y en a bien qui n'ont pas du tout envie de faire aucun effort pour apprendre rien, ben c'est les Anglais. Ils parlent la langue universelle. pas que je généralise, ça, c'est pas bien. Mais à personnel, pas pour des vacances avec une copine dans... auberge de jeunesse, dans notre chambre, il y avait deux Irlandais, ils parlaient, ou deux Écossais, je sais plus, en tout cas, ils parlaient très vite et très bizarre. Enfin, un anglais avec un accent que je suis quand même pas mal en anglais, mais alors cet accent-là, il fallait vraiment qu'ils parlent déjà plus lentement pour que je puisse comprendre. Et c'était un accent hyper dur, hyper. Ça se voyait que c'était un accent typique.
Région.
C'est ça. Et en fait, on lui demandait, et on en rigolait avec ma pote, c'était vraiment, mais quoi? Et il répétait la même phrase, exactement pareil, exactement aussi vite, les mêmes mots, la même intonation, tout pareil. Et on lui redemandait en pleurant de rire, ah non, mais c'est pas possible, ça fait 4 fois qu'on t'a demandé de répéter la phrase. Tu vois bien qu'on te demande de la répéter parce qu'on comprend pas. Comment c'est possible que tu la fasses exactement pareil? L'empathie.
Il y arrive peut-être pas.
Non, mais en plus, au bout d'un moment, je le voyais dire « Jesus !» Genre, oh là là, qu'est-ce que c'est, chiante ? Genre, c'est nous les chiantes, c'est toi qui essayes de communiquer avec nous, zéro effort, vive ma mère ! C'est pas possible ! Non, mais...
La douleur est encore présente.
Ouais, mais parce que vraiment, on pleurait de rire. Parce que c'était vraiment une conversation qui menait nulle part, parce que lui, on le comprenait pas. Lui, il discutait avec son pote, en se foutant de notre gueule, je pense très probablement, et il rigolait, du coup, on n'en pouvait plus, on n'arrêtait pas de rigoler, mais on essayait de les con... Impossible. Et l'anglais, il n'était pas en train de nous parler en russe, hein, de non, l'anglais. Impossible de comprendre. Et impossible que lui fasse un effort pour se faire comprendre aussi. Ça, c'est quand même...
C'est pas que la langue, c'est aussi la personne qui la manie, qui est en face, les accents, la manière dont... Enfin voilà, c'est pas que juste savoir parler anglais, il faut que les autres gens sachent se faire comprendre aussi, quoi, en fait.
Simplement. Une flexibilité, une empathie, tout simplement, pour te rendre compte que la personne en face de toi te comprend.
Elle galère,
pas.
Quoi. Ouais.
Voilà, elle te comprend pas, je sais pas, rajoute des gestes, parle déjà plus lentement, parce que je pense que je suis capable de comprendre l'anglais quand même. Mais il faut juste que je vais pas te demander de changer ton accent, non plus. Juste dis la phrase un peu plus lentement, rajoute des gestes, histoire que je comprenne, tu vois. Zéro. Rien du tout, quand même.
Ouais.
Quand même.
Ah, moi, ces histoires avec ça m'a toujours bien intéressé, quoi. J'essaie de voir comment les gens manient, en fait, la sonorité, comment ils peuvent la démanier aussi, revenir un peu en arrière pour essayer de se faire comprendre, etc. Il y a des dialectes qui se mettent en place, parce que clairement, les Irlandais et les Écossais, c'est un peu comme nous, les Patois ou des trucs, ils ont aussi des mots...
ils ont des mots en gaélique qui doivent traîner dans leur vocabulaire...
endémique de leur...
Déjà leur
prénom. Ouais, complet. Non, mais
c'est ça, déjà, effectivement, c'est clair.
Ce que je vois souvent sur Instagram ou TikTok, c'est des vidéos de filles irlandaises ou écossaises qui montrent à des copines à elles qui sont donc anglaises, ils montrent, est-ce que tu peux essayer de prononcer ce nom? Et rien ne va. Vraiment, et c'est un fou rire constant parce que du coup, les filles, elles essayent vraiment de leur mieux d'essayer de prononcer le plus bizarrement parce qu'elles savent que ça va rien avoir avec ce qu'elles vont dire, donc essayent de prononcer un truc hyper bizarre. Rien à voir, c'est encore plus bizarre que ce que tu imaginais. C'est incroyable, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, ces vidéos-là.
Un de mes cousins s'appelle Oshin, bon, je le prononce pas forcément, mais c'est Oshin, et ça s'écrit voisin, comme le voisin, mais sans le V. Okay. Et ils ont une cousine qui s'appelle Shivan, mais ça s'écrit Sioban.
Ah oui, ah, ça n'a rien à voir, quoi.
Et t'as des exemples encore pires, quoi. Enfin, t'as des vrais noms gaéliques, ou des vrais noms qui sont vraiment encore pires, quoi. C'est vraiment un truc... Bah, en fait, on en a trait au vraiment un peu... On en revient un peu à ton japonais, quoi. C'est de vraiment des lettres...
C'est si loin.
Non, non, mais...
Le français, hein. On revient à le français, je pense qu'on en trouve un. Je sais pas, moi quand je suis arrivée ici et j'ai dit la féclase, on m'a regardé, on m'a tué instantanément. Parce que en savant les AZ, la grande majorité des noms de villes, de villages, de montagnes et tout, ça finit en AZ.
Oui.
La grande majorité, il y en a, mais...
Il y en a beaucoup.
La plupart des gens aujourd'hui, l'exemple qu'elle disait, la féclase, la plupart des gens le disent la féclase.
La féclase, non, c'est pas ça?
Ouais, mais en fait, tu trouves des vieux écrits ou des vieilles personnes qui parlent encore, comme à l'époque, machin, ils vont dire la fécle.
La fécle? Ah oui, il n'y a même pas le A qui se prononce.
Il n'y a plus rien.
Il y a des coins par chez moi, c'est
la flouque.
En fait, il faut remonter dans les vieux patois, parce que chaque patois est associé déjà à une localité et aussi à une époque. Enfin, à mon avis, ça a tout le temps été des remaniements, etc. Quoi, de la sonorité en elle-même. Quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai, ouais. Faudrait déjà qu'on apprenne.
Moi, je dis ça parce que attends, j'ai du problème, moi qui étais analphabète avec le français, qui n'avait jamais vraiment écrit le français. Moi qui le parlais quand même bien, je suis arrivée, les gens me prenaient pour une attardée mentale. C'est ce qui m'est mal. J'ai grandi avec une langue dans l'espagnol qui est hyper... ça s'écrit comment ça se parle, c'est-à-dire que tu écris toutes les lettres que tu prononces et tu prononces toutes les lettres que tu vas
que tu
dire, en fait, que tu écris. Ouais. Donc,
mais moi, alors, ça n'a rien à voir en français, quoi.
Ça, moi, déjà, juste mon nom de famille, Beau, qui s'écrit B-E-A-U, pour les Espagnols, ça a été un calvaire toute leur vie d'essayer de prononcer mon nom de famille. Après, moi, enfin, voilà, E-A-U, A-U... Toutes tes tonalités de haut, hein, voilà. Mais je sais pourquoi.
Et des fois, t'as encore des autres exceptions.
O, A, U, A, U, L, T, A, U, T, A, U, X, A, U, O, U, enfin, c'est bon.
Les circonflexes. Le cédille. T'as tellement d'états.
Les mêmes sons pour des façons différentes d'écrire, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup.
Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas vraiment. Alors, je veux pas dire une connerie, mais je crois que c'est pas vraiment les mêmes sons en réalité, je crois, hein, qu'on est censé faire.
Ouais, ouais, et puis ça.
Alors, moi,
ça
je suis le premier à pas les respecter parce qu'en plus, j'ai des relents sudistes, mais par exemple, le E et le S, c'est pas censé être pareil, le O, le O, le O, le E, le. Enfin, t'as vraiment des subtilités de langage qu'on est censé respecter, mais qu'en vrai, personne ne respecte. Mais à la base de la base, je crois qu'il y a vraiment une logique derrière tout ça.
Ouais, ça vient d'une origine d'un mot qui a évolué à travers le temps. Par exemple, les circonflexes...
Oui, c'est pour un S, normalement.
Voilà, à la base, il y avait beaucoup de S, en fait. Et le
la
S,
forest, on a... la best.
Ouais, ouais, ouais. C'est à la base, il y a des langues qui ont évolué petit à petit, qui continuent
des
d'ailleurs.
Des reliquats qu'on a, en fait, quoi, tout simplement. D'anciennes écritures, d'anciennes prononciations qui nous restent, en fait.
Exactement.
Ouais. Et comme tu le dis, ça continue d'évoluer encore et toujours. Une langue, c'est jamais...
Ouais, bien sûr.
Enfin, ça finit par mourir au bout d'un moment, forcément, mais en tout cas, ça s'est développé surtout en autre chose, quoi, en fait.
Exactement. Alors, je suis pas spécialiste linguiste, mais...
On n'est pas linguiste, on fait de la linguistique de comptoir.
Intéressant de faire venir une linguiste dans ton émission qui
est... Oui, bah, s'il y a des linguistes qui écoutent notre émission, dites-nous dans les commentaires si on a dit des conneries et si vous avez envie de participer à une émission spéciale sur les langues. Sachez que ça m'a fait plaisir de vous avoir tous les deux dans cette émission. C'est un réel plaisir d'avoir pu faire cette petite discussion en votre compagnie. Je voudrais aussi remercier nos chers auditeurs qui nous écoutent toujours. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas aussi à aller voir tous les liens que Julien et Ariane vont mettre dans les commentaires de cette vidéo. Parce que voilà, on a parlé de plein de choses, on a fait plein de pubs. Donc allez voir tout ça parce que je suis sûr que c'est incroyable. Et moi, j'irai voir également, bien évidemment.
Merci à toi.
Et puis bah gros bisous et puis bah bonne fin de soirée à tous les deux puisque vous êtes tous les deux en présentiel. Ciao.
Bisous, ciao.